on a connu les totalitarismes nazis, fascistes et staliniens, politiques, on va aujourd'hui vers une espèce de technofascisme. Mais c'est pas la technique qui est fasciste, c'est que nous avons laissé à la technique, comme nous avons laissé au marché, le soin de raisonner à notre place.
Bonjour et bienvenue dans Be My Guest. Je vous emmène à la rencontre de ceux qui font et de ceux qui pensent le digital. Aujourd'hui, je reçois Roland Gory, psychiatre et professeur d'université qui observe notre société. Avec lui, nous allons évoquer l'irruption de la technologie dans notre quotidien. Est-ce un apport négatif ou positif? Est-ce que c'est vraiment la technologie qui est responsable de tous les changements qu'on voit autour de nous? Vous allez voir que c'est une discussion assez profonde. On va entendre parler d'impératifs kantiens, on va entendre des citations de Bourdieu et de Foucault. Ça, c'est pas tous les jours dans le monde du digital, mais vous verrez, ça vaut la peine.
Be My Guest, présenté par Laurent Haug, en partenariat avec 200 idées et créa, école membre de InSecU.
Bonjour Roland Gory.
Bonsoir Laurent.
J'ai l'impression que les psys ne chôment pas en ce moment. Quelle est la part de responsabilité de la technologie dans tout ce qui se passe autour de nous?
Je ne pense pas que la technologie ait une responsabilité. Je pense que l'homme qui utilise la technologie et parfois jusqu'à l'addiction a une part de responsabilité. De même, la société dans laquelle nous sommes immergés et qui peut avoir tendance à favoriser, par exemple, la technique, la solution technicienne, plutôt que la solution culturelle ou psychologique ou sociale ou politique.
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que les technologies, il y a 20 ans, c'était une sorte de panacée, ça allait amener la paix dans le monde, c'était absolument génial, tout était génial, la Silicon Valley, c'était, on admirait, c'était les modèles. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'en une année ou deux, ça a complètement tourné. Les réseaux sociaux ont foutu en l'air la démocratie, ça rend tout le monde narcissique, les smartphones maintenant font nous des accros. Qu'est-ce qui s'est passé pour générer ce changement?
Oui, mais je crois qu'il faut se méfier, en quelque sorte, lorsque les utopies se renversent en utopies négatives et diaboliques. Le problème, il n'est pas là, à mon avis. Le problème, il est que depuis la deuxième moitié du XIXe siècle, vous voyez, ça remonte assez loin, la modernité trouve dans la technique le moyen de solutionner des problèmes qui sont des problèmes psychiques, qui sont des problèmes sociaux, qui sont des problèmes politiques et économiques. C'était une véritable fascination de nos sociétés modernes, avec la deuxième révolution industrielle notamment, pour trouver dans la machine d'abord des solutions à des problèmes. Par exemple, vous avez à la fin du XIXe siècle, vers 1870, un patron qui s'appelle Denis Poulot qui sort un bouquin sur le rôle éducatif de la machine. Vous voyez, on part déjà de cette idée que la machine, c'est un meilleur tuteur que l'instituteur, le pasteur.
Ça, c'est quelle année, ça?
1870, à peu près.
Ah oui, d'accord. Donc, avant les fantasmes actuels
mais si vous prenez
le côté magique des technologies, notamment pour le monde de l'éducation.
Oui, non, mais c'est pour essayer de vous montrer, en quelque sorte, qu'aujourd'hui, ce que l'on attend à la fois comme salvateur ou à la fois comme diabolique en sorcelant du numérique, ça existait déjà à cette époque-là. Bon, simplement, c'était pas encore des machines immatérielles comme les logiciels ou comme nos écrans. C'était des machines bien matérielles. Mais vous savez, il y a une phrase de Bernanos. Alors là, j'avance un peu vers notre époque, que j'aime beaucoup. Dans La France et les robots, il dit que le danger ne vient pas des machines, sinon il nous faudrait faire ce rêve absurde, partagé avec les iconoclastes, qui pensaient détruire les croyances en anéantissant les images. Le danger vient du nombre sans cesse croissant d'hommes habitués depuis la plus tendre enfance à ne désirer que ce que la machine peut donner. Alors, je m'en rapproche de notre époque, Laurent, ne vous inquiétez pas. Et aujourd'hui, on va dire que le numérique, le digital, c'est une véritable révolution symbolique, au sens de Bourdieu, c'est-à-dire comme une espèce de conversion religieuse d'une religion à l'autre. Donc on est passé à la religion du numérique, qui copule parfaitement avec la religion du marché. On y reviendra sûrement. Et cette religion du numérique, eh bien, d'une certaine façon, elle nous donne du monde ce qui peut passer par son filtre, ce qui peut passer par son canal. Donc, pour prendre un
exemple. Mais c'est pour ça qu'elle est pas neutre, par exemple, la technologie. Parce qu'à vous entendre, on pourrait se dire, elle est ni bonne ni mauvaise. C'est en fait l'usage qu'on en fait qui définit si son impact est positif ou négatif. Mais est-ce que, à votre avis, la technologie est-elle neutre?
Alors, la technologie en elle-même, elle n'est pas, si vous voulez, négative ou positive. C'est l'usage qu'on en fait.
C'est ça, le couteau permet de tuer, tout comme il permet de chasser. Non, mais quoi.
On va être très concret. Bon, si vous prenez, par exemple, aujourd'hui, les possibilités qu'apporte le digital, le numérique, les robots dans le monde médical. Par exemple, on s'aperçoit que l'ordinateur, pour aller très vite, ou certaines applications permettent la détection de mélanome à 95%, là où les dermatologues réussissent à 70-75%. Donc vous avez une plus-value apportée de prévention des mélanomes, cancer de la peau. Bon, de la même manière, dans l'interprétation des images, de l'imagerie médicale, certains programmes permettent bien évidemment de dépister de façon fantastique ce que à l'œil nu on ne pourrait pas trouver.
Mais voilà, c'est ça, c'est que finalement c'est comme le microscope qui nous permet de voir. En fait, c'est la machine qui augmente nos capacités, hein, comme la voiture nous permet de nous déplacer plus vite ou l'avion encore plus vite. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a ce fantasme qui vient, qui est que la technologie n'est plus là pour nous augmenter, mais elle est là pour nous remplacer? C'est ce qu'on entend toute la journée dans les médias, que typiquement cet exemple que vous venez de cité du radiologue, il y a des gens qui, à partir de ça, vous disent les médecins n'auront plus de travail dans 3 ans.
Oui, non, mais alors, si je peux me permettre, quitte à revenir un petit peu en amont de votre question. Le programme Watson d'aide à la décision médicale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont, si vous voulez, des nouvelles techniques qui peuvent apporter le meilleur comme le pire. Alors, le meilleur, c'est incontestablement qu'elle nous apporte des données supplémentaires. Elle nous apporte de l'information que nous n'aurions pas pu capter, capturer, traiter sans ces machines. Mais si effectivement cela doit aboutir non seulement à la destruction des métiers, mais à ce que l'acte médical se réduise à, si vous voulez, une capture numérique par des machines, c'est-à-dire la perte vraiment de la substance médicale du rapport qu'on entretient avec un médecin et avec un patient, alors on va vers la catastrophe. Bon, on voit bien aussi d'ailleurs, si vous voulez, les dérivés de ce type d'utilisation. Ce que je veux dire par là, c'est que bientôt, on va répondre à notre hypochondrie généralisée en portant des tas de montres, de machines.
Qui va vous dire, votre cœur n'a pas battu de façon régulière, attention. Bon.
Et ça ne sera pas sans conséquence. Mais ce ne sont pas les capteurs. Oui, bon, on peut prendre un autre exemple très concret. On sait bien qu'on va vivre de plus en plus dans une ville intelligente où les objets vont être interconnectés et par conséquent vont réduire les embouteillages. On va avoir des voitures autonomes, on va avoir des interconnexions telles que on devrait pouvoir éviter les accidents. Bon, c'est tout à fait formidable. On va arriver du coup dans une maison aussi intelligente. Vous n'aurez plus besoin, Laurent, de clé pour entrer chez vous, parce que un capteur va faire une reconnaissance faciale qui va faire que la porte va s'ouvrir, etc.
Voilà, et puis, dès que je vais sortir une pizza de mon frigo, il va m'en recommander une autre et du coup je mangerai plus
absolument,
que des pizzas
voilà,
jusqu'à la fin de mes jours.
On va vivre dans une ville intelligente, dans une maison intelligente où les objets sont interconnectés, mais du coup on peut aboutir à ce que Gunther Sanders appelle l'obsolescence de l'humain. C'est-à-dire du coup l'homme devient tout à fait superficiel. Qu'est-ce qu'il peut bien foutre dans cette galère? Donc tout dépend ce que nous allons faire du temps libéré par la plus-value que nous apportent justement ces machines, notamment ces machines numériques. Alors maintenant, je vois bien que derrière votre question, il y a quoi ? Il y a bien sûr le risque de voir avec ces machines les individus être en permanence sur leurs écrans, en permanence sur leur montre qui va leur indiquer la fréquence cardiaque et puis le nombre de pas qu'ils ont pu faire dans la journée, et du coup perdre la relation sociale. Mais ça, c'est pas la machine qui prescrit que vous devez perdre la relation sociale et que vous devez perdre la relation avec vous-même Parce qu'elle existe.
Mais ça veut dire que selon vous, la solution, alors vraiment, hein, c'est pas mon opinion forcément, mais c'est ce qu'on entend comme débat dans la sphère publique, hein, que ça rend autiste, etc. Selon vous, la solution n'est pas à aller chercher du côté des géants de la Silicon Valley, que pourtant tous les gouvernements essayent de réguler. Hein. Aujourd'hui, la réponse du ministère de l'Éducation nationale en France a été d'enlever les smartphones. Vous vous dites, ça viendra pas de là, oui. Ça viendra plutôt d'une autorégulation de notre part et peut-être de la fin de la fascination pour ces technologies qui se banalisent aussi en parallèle.
On va y venir, mais d'une autorégulation, d'une interrégulation. C'est-à-dire que le problème, il est à la fois psychopathologique, je suppose que c'est aussi pour ça que vous m'avez invité, et il est politique. C'est-à-dire que le risque, je citais tout à l'heure Gunter Sanders, bon, on n'a pas parlé de la technique mécanique, électrique et autres, mais depuis toujours, on sait bien que la solution technique, elle peut venir en lieu et place du dialogue entre humains. Donc il y a un danger majeur. On aboutit à ce que Gunter Sanders appelle justement les ermites de masse, c'est-à-dire des gens qui sont branchés en permanence sur l'appareil technique, et pas forcément que le numérique d'ailleurs. Il y a aussi les love dolls, hein, les poupées siliconées, hein, qui vont venir remplacer. Il y a des bordels à Paris qui se sont mis en place avec ces
robots.
Avec ces robots,
ouais.
Voilà. Hein, donc, si vous voulez, c'est quoi? C'est d'une certaine manière un fétichisme. C'est d'une certaine manière une addiction. Bon, une addiction, c'est quoi?
Est-ce que c'est temporaire? Parce que moi, je m'intéresse beaucoup aussi à l'histoire des techniques. Il y a quelque chose, par exemple, qui est intéressant, c'est l'histoire de l'électricité, qui, pendant des années, a été considérée comme quelque chose d'un peu magique. Donc, il y avait une fascination pour cette technologie. Puis aujourd'hui, quand on allume la lumière, on n'est plus du tout fasciné. Est-ce que finalement, et pour rejoindre votre point de l'autorégulation, allons-nous bientôt arriver à un stade où, en fait, le smartphone, les réseaux sociaux, tout ce qui a été nouveau ces 10 dernières années devient emmerdant, quoi. Je veux dire, c'est plus nouveau, c'est plus très intéressant, et puis du coup, les usages de Facebook sont en baisse, je crois, pour une des premières fois depuis très longtemps.
Oui, alors, bon, on va prendre un exemple très concret. Le problème majeur aujourd'hui, ce sont des gamins qui passent des heures et des heures sur leur téléphone portable et sur les écrans. Mais c'était aussi la télé, hein.
Mais c'est ça, mais moi, ma génération, moi j'ai 40 ans, on a dit ça, que j'allais devenir un délinquant parce que je joue aux jeux vidéo. J'ai trouvé dans l'histoire, j'ai vu un prof en 1815 en Angleterre qui se plaint que les étudiants ne savent plus écrire au tableau noir parce qu'à cause du papier, l'université de Cambridge avait des gros problèmes parce que les étudiants allaient traîner dans des cafés et lisaient le média de l'époque en 1700 et quelques, qui était le journal, le quotidien. Donc c'est intéressant parce que justement c'est là que je veux bien comprendre, parce que je suis très intéressé par les motifs, les choses qui se répètent, et j'ai l'impression que finalement il y a eu cette panique totale vis-à-vis de la technologie, et qu'elle va quelque part rentrer dans le rang, elle va devenir comme une automobile, quoi. C'est la technologie qui fait plus rêver, et puis on passera à autre chose, on aura peur de la chose suivante, mais finalement, autant l'utopie que la dystopie auront été quelque part vaines.
Mais les techniques ne sont pas que des instruments. Les techniques sont des décisions prises à l'avance, et qui d'une certaine façon vous obligent. En même temps, si vous voulez, la technique, elle est ambivalente. C'est-à-dire qu'elle est à la fois un vecteur d'émancipation. La preuve, c'est que on est à l'abri, puisqu'on a pu, par la technique, se mettre à l'abri des contraintes de la nature. On peut communiquer, c'est tout à fait formidable. On a un micro, ce qui nous permet d'enregistrer. Enfin, donc, il y a une force d'émancipation, de libération, si vous voulez, qui est considérable. Mais en même temps, la technique, c'est le vecteur d'une confiscation d'un certain nombre de décisions. Et si on ne se méfie pas suffisamment, et si effectivement on n'a pas une espèce de biodiversité des manières de concevoir le monde, c'est ça qui pour moi est important.
Et la technique.
Et la technique, mais justement, si vous voulez, la technique, il est important d'y ajouter autre chose. Alors, on va être très concret. Bon, en gros, vous faites allusion, sans les nommer, à des phénomènes psychosociaux connus au Japon, en France et ailleurs, qui s'appellent par exemple l'otakisme. C'est-à-dire, vous avez, comme ça, si vous voulez, 260 000, certains, les Enroc, le journal Les Enroc, annonce 500 000 Japonais, qui sont retranchés de toute vie sociale, qui ne sortent pas de leur maison, qui ne sortent pas de leur chambre, mais qui ne sortent pas surtout de leur ordinateur. Et ils ont une espèce de vie sociale purement médiatique, c'est-à-dire une espèce de cyber sociabilité, de cybersexualité, et qui se caractérise notamment par trois symptômes majeurs. C'est le manque d'émotion, Donc une apathie, ce qui est quand même très très important, si vous voulez, c'est le manque de vie pratique, une espèce d'apragmatisme, et c'est le manque d'énergie. Donc vous avez là des ados essentiellement, des jeunes adultes qui se trouvent totalement retranchés à l'abri de leur logis, d'ailleurs otaku, en japonais ça veut dire aussi maison, de leur logis informatique. Bon, mais otaku, ça veut dire aussi s'adresser à quelqu'un en le tenant à distance. Donc on voit bien comment la technologie, là, est un moyen d'éviter la relation humaine jusqu'à la phobie sociale. Bon. Alors, bien sûr, c'est une pathologie. Bien sûr, c'est une pathologie pas forcément psychiatrique, mais c'est une pathologie psychosociale. Mais, par exemple, on a remarqué que ça n'arrivait pas à Nabortéon. Ça arrive en 1990, dans les années 1990, au moment où le Japon vit une crise économique et une crise sociale qui amène ses adolescents à ne pas se risquer sur un nouveau marché qui les paupérise, qui les prolétarise, qui leur fait perdre le sens de la vie sociale et psychique.
Justement, pourquoi est-ce que c'est une pathologie? Quelque part, ça pourrait se discuter, parce que quelqu'un qui est ermite dans une forêt, on va pas lui coller une pathologie dessus, mais là, parce qu'il y a un ordinateur, on retrouve un peu ces fantasmes quand même.
Laurent, j'ai dit une pathologie psychosociale, et je me suis bien gardé de parler de pathologie psychiatrique. Alors, après, on va un peu plus loin, il y a ce qu'on appelle les hikikomori, où là, effectivement, on est dans quand même la phobie sociale. Alors, vous dites, après tout, oui, bien sûr, quel est l'ermite qui avait enlevé l'épine de la panne? C'est Saint Jérôme. Donc on peut démultiplier les Saint Jérôme et considérer que c'est pas de la pathologie. Je veux bien. Pour moi, je le prends plutôt comme un symptôme qui dit quelque chose de notre culture.
Non, mais c'est là que je voulais en venir. Je me rappelle avoir vu que en 81, d'ailleurs ça m'avait choqué, en 81, on enlève 2 millions de malades en France d'un coup de baguette magique parce qu'on retire l'homosexualité de la liste des pathologies. Oui, et voilà, et oui, c'est comme ça aussi. Enfin, on crée quelque part les problème qu'on veut résoudre en mettant des étiquettes sur des choses. Et c'est vrai que tout à l'heure, j'étais dans un fitness, courir sur un tapis roulant. Les gens, il y a 100 ans, m'auraient pris pour un malade mental de ne pas aller courir dehors. Voilà. Et puis aujourd'hui, c'est complètement banal de faire ça. Donc,
on va vers quand même une culture du narcissisme qui avait été tout à fait bien analysée déjà par Christopher Lasch dans les années 70. Hein, 1970. Si vous voulez, moi, j'ai fait un petit peu de musculation. Je me souviens, on est branché sur les machines avec des miroirs, donc en permanence on efface sa propre image dans un certain nombre de fragments.
On vous dit que c'est pour pas vous faire mal au dos.
Oui,
c'est la version officielle, mais en effet c'est très pénible.
Ça n'a pas réussi d'ailleurs.
Là vous faites référence à la culture du narcissisme, hein, le livre qui est écrit dans les années fin des années 70 et qui prédit qui ce monde de la télé
qui est remarquable,
c'est terrifiant, mais remarquable.
C'est plus Oedipe, c'est Narcisse. Hein. Et alors, c'est pour ça que je pense que, si vous voulez, les symptômes, les troubles psychiques, à un moment donné, la manière dont on porte un diagnostic sur eux, révèle davantage la substance éthique d'une société, révèle davantage les valeurs d'une société, qu'ils le disent quelque chose de la réalité de la souffrance des sujets. Pour prendre un exemple très simple, actuellement, on sait bien que on voit le trouble de l'hyperactivité et de l'attention en train de flamber. Bon, mais vous n'êtes pas atteint.
Surtout chez les parents, d'après ce que je vois en général quand je suis au parc et que je vois les parents des enfants qui sont sur leur téléphone. Oui. C'est surtout eux qui ont des troubles de l'attention, c'est beaucoup moins les enfants.
Oui, mais
en effet, on fait porter ça aux enfants plutôt que de le faire porter aux parents.
Quand on fait porter ça aux enfants en disant que ce sont des dysfonctionnements neurogénétiques révélés ensuite par des facteurs environnementaux, on disculpe la société de la part qui est la sienne dans la fabrique de ces symptômes. Parce qu'on ne dit pas aussi, enfin vous savez bien, nous avons besoin, vous et moi, d'être hyperactifs pour pouvoir être sur le marché. Donc, arrêtons. On va parler de troubles de l'hyperactivité chez un président
mais
français.
Mais voilà, de nouveau, on a créé un problème quelque part. Du coup, avec ça viennent des thérapies, des médicaments, une industrie
d'aller faire
du yoga à des enfants de 4 ans. Et voilà, et quelque part...
Oui. Et on n'interroge pas de quelle niche culturelle ces symptômes émergent, et surtout leur diagnostic. Parce que ça n'est pas sous-estimer la souffrance psychique que de considérer que la manière dont elle va s'exprimer, se manifester, est quand même déterminée par la culture. Donc si vous voulez, pour être très concret, on a parlé de l'otakisme des hikikomori, voilà un symptôme qui est effectivement un symptôme qui émerge, si vous voulez, à notre époque, qui est une forme d'addiction.
Mais du coup, la technologie, pour vous, est-ce que ça a été un facteur aggravant? C'est-à-dire qu'avant, peut-être, on était obligé de sortir de chez soi parce qu'on pouvait pas commander à manger sur Internet à tous les repas, et du coup, on pouvait pas aller aussi loin, et en ce sens-là, ça serait peut-être la petite part de responsabilité quand même de la technique, ou pas?
Je, personnellement, mais là, on est dans l'opinion, on est plus dans l'analyse scientifique, vous le savez. Personnellement, je ne voudrais pas faire porter à la technique la responsabilité qui est la nôtre. C'est quand même notre manière de vivre. Vous comprenez?
Si vous prenez. Mais ça, c'est très intéressant parce que je veux ramener ça au débat du moment, qui est justement, il faut réguler la technologie, il faut aller mettre des normes pour repousser un peu ces géants chinois, américains qui viennent nous envahir. Vous, ce que vous dites, c'est que très clairement, la solution, c'est à nous de la trouver. Alors, c'est pratique de pouvoir pointer le doigt vers la Silicon Valley.
Bah oui, non, mais c'est évident. J'ai fait une conférence à la Sorbonne il y a quelque temps, qui s'appelait "Est-ce que la démocratie est soluble dans le numérique ?" C'est une façon de dire qu'effectivement, on voit bien comment aujourd'hui, étant donné toutes les traces de pas numériques que nous laissons sur le web, il est tout à fait possible de définir un profil de comportement, à partir de ce profil de comportement, de vous proposer des produits et de vous gérer. C'est-à-dire qu'on peut aboutir demain à ce que Colin Crouch appelle le régime post-démocratique, c'est-à-dire on n'est plus en démocratie. On va plus débattre, il y a plus de débat politique à avoir, il y a plus d'affrontement de valeurs, puisque ce sont les algorithmes qui vont décider pour nous, en fonction de l'état d'une population, et considérer que l'individu n'est plus qu'un segment de population statistique, dont on a défini le profil, et on va, à partir de ce moment-là, lui proposer ce dont il a besoin, et lui prescrire en même temps ce dont on pense qu'il a besoin.
Voilà,
on pense.
Oui, et c'est ça.
Il y a des décideurs derrière la machine.
Mais
on y vient.
En plus, il y a quand même une promesse qui a été faite. Le numérique, pour moi, a tenu certaines promesses. Il y en a plein qu'il n'a pas tenu. Et justement, ce côté, la customisation de masse, c'était le mot d'Alvin Toffler qui parlait de la troisième vague, n'est pas du tout arrivé. Aujourd'hui, si vous allez sur un service comme Netflix ou comme Spotify, on vous dit il y a un algorithme magique qui va vous recommander des trucs. Alors déjà, tout ce qu'on vous recommande match avec vous à entre 92 et 95%. Donc on ne sait pas trop à quoi ça sert de mettre encore un chiffre aussi précis, et ensuite vous allez regarder, et puis en tout cas pour moi, 9 fois sur 10, je trouve que ça marche pas du tout. Donc on nous a aussi fait une promesse, et c'est marrant parce que je trouve que la technique est quelque chose qu'on ne se permet pas de douter. On se dit ça a été fait par une machine, donc cette recommandation doit être bien, alors qu'objectivement je ne vois personne découvrir de la nouvelle musique comme ça, je ne vois personne découvrir des nouvelles séries comme ça. Ce qu'on fait tous, c'est qu'on demande aux copains, est-ce que tu connais quelque chose. L'autre truc que ça m'inspire, ce que vous dites, j'avais fait venir un artiste dont le travail me fascine depuis très longtemps, qui s'appelle Hassan Elahi, qui s'était fait mettre sur la liste des terroristes aux États-Unis parce qu'il s'appelle Hassan, et il avait passé la douane un peu au mauvais moment, etc. Et en fait, lui, la façon dont, je fais l'histoire très courte, mais dont il a regagné sa vie privée, c'est justement en inondant le réseau d'informations. Donc il a commencé à mettre tous ses relevés de téléphone, tous ses relevés bancaires, à prendre des photos d'où il était toutes les 10 minutes, au point où le surveiller était devenu tellement coûteux pour le gouvernement que c'est le FBI qui lui a demandé s'il vous plaît d'arrêter. Donc il y a cette espèce d'ironie aussi qui semblerait que la protection de la vie privée et la compréhension qu'on peut avoir de nous avant était quelque chose qu'on nous donnait. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on va reconstruire, peut-être par le fait de bombarder le système avec de l'information qui part dans tous les sens.
Si vous voulez, je crois que nous sommes aujourd'hui dans une société qui avait été tout à fait anticipée par Philippe K. Dick. C'est-à-dire une réalité qui se trouve doublée par une réalité virtuelle. Une réalité réelle, pour dire la chose simplement, doublée par une réalité virtuelle. Et à certains moments, cette réalité virtuelle qu'on nous propose, elle peut nous rendre service, à d'autres moments, elle nous aliène. Alors, je vais prendre un exemple. Vous avez évoqué tout à l'heure la santé mentale, donc on va entrer dans le dur. C'est une expérience que je raconte toujours parce que je la trouve tout à fait extraordinaire. C'est l'expérience de Londres. Depuis 2012, comme vous le savez, tous les gens que l'on trouve sur la voie publique en état d'ébriété, impliqués dans des troubles sociaux mineurs, altercations, injures, voire bagarres, etc., sont sévèrement condamnés, tolérance zéro. Ils doivent pointer dans un commissariat de police. On mesure leur taux d'alcoolémie. Enfin bref,
en Angleterre, ça.
Ils sont un peu fliqués en Angleterre. Mais ça existe aussi aux États-Unis, dans les pays d'Europe du Nord et autres. Mais Je prends l'exemple de l'Angleterre, pourquoi vous allez comprendre. Bon. Alors, il se trouve qu'on leur propose une solution palliative. Et là, on voit bien comment la technique vient, en quelque sorte, à la place, par exemple, de l'éducation, ou à la place du soin, ou à la place du suivi policier, etc. On leur propose de, plutôt que d'être condamné, d'aller en prison, de payer des amendes, de porter un bracelet électronique à la cheville qui mesure toutes les 30 minutes le taux d'alcoolémie à partir de l'analyse de la sueur. Donc, à la moindre manne de bière, au moindre whisky un peu trop serré, si j'ose dire, un peu trop dense, la machine envoie une alerte qui, à force, peut envoyer le récidiviste devant un tribunal, voire en prison. Bon. Alors, c'est intéressant pourquoi ? C'est intéressant parce qu'on voit bien comment la machine gouverne votre conduite. Elle devient le conducteur de la conduite. Elle devient, si vous voulez, le tuteur, l'instituteur ou le pasteur de vos comportements. Et donc, votre conscience morale, votre surmoi, votre impératif kantien, vous le portez à la cheville. Alors, ce qui est intéressant, c'est pour ça que je voulais vous parler de cette expérience, Laurent, ce qui est intéressant, c'est la déclaration de l'ex-maire de Londres, à l'époque maire de Londres, Boris Johnson. Lorsqu'il est interviewé en 2014, je crois, par le journal Le Monde, il déclare « Cette solution est formidable, puisque plutôt que d'envoyer les gens en prison, on peut les aider avec cet appareil, c'est moins cher et plus efficace. » Alors, trois choses importantes. On peut les aider. Ça veut dire que dans notre société, tout à l'heure, je vous ai parlé de Denis Poulot, vous savez, celui qui disait que la machine permettait à l'ouvrier, finalement, de se former une conscience morale. Eh bien, là, vous l'avez, hein. Un siècle plus tard, vous avez à peu près la même chose. On peut les aider, c'est-à-dire que la forme de l'aide dans notre société...
Grâce à la machine, on redevient sain et...
C'est la technique. C'est pas l'éducation. C'est pas la formation. C'est pas le soin psychique. C'est pas le soin relationnel. C'est pas le conseil. C'est pas le copain. C'est pas la famille. C'est pas l'imam, c'est pas le pasteur, c'est pas le prêtre. Non, c'est la machine. Donc vous portez votre conscience morale, n'est-ce pas, à la machine. Bon. Ensuite, je crois que c'est plus efficace. Ça veut dire que, si vous voulez, c'est un langage de machine. On privilégie, en quelque sorte, l'efficacité sur la vérité, sur la valeur, sur d'autres données morales.
Et puis, qu'est-ce que c'est l'efficacité dans ce cas-là? Si dès qu'on enlève le bracelet, la personne va se bourrer la gueule.
Alors là, vous allez très vite, là, Laurent. Alors,
non, mais je veux pas vous sortir de votre flow, mais je vois ce que vous voulez dire. L'efficacité qui pose question elle-même.
En gros, c'est un langage machine, quoi, ça tourne.
Voilà, mais c'est très binaire.
Mais enfin, si le type s'est peinté la gueule, c'est peut-être parce qu'il a des problèmes personnels ou collectifs, j'en sais rien.
Mais ça évite de poser cette question. La technique permet justement d'offusquer tout ça et de ne pas trop en parler. Ouais.
La technique permet de court-circuiter la question du sens et de la valeur. C'est ça le problème majeur. Mais parce que nous l'utilisons comme ça. Alors, je crois que c'est moins cher. Là, c'est un langage comptable. On voit bien comment, effectivement, dans notre société, on va privilégier tout ce qui est à effet immédiat, à court terme, plutôt qu'à long terme. C'est comme ça que la psychanalyse s'est trouvée un petit peu discréditée dans l'opinion occidentale, hein, puisqu'effectivement, c'est un peu long, c'est un peu cher, on ne sait pas très bien où on va. Mais c'est un choix. C'est un choix de société, c'est un choix individuel. Alors, est-ce que c'est si efficace? C'est là où je viens à votre conclusion, si j'ose dire. On est allé voir aux États-Unis, puisque vous savez qu'en Europe, il nous faut 10 ans pour recycler des surplus américains. Donc effectivement, dans le Dakota du Sud, il y a eu des recherches, et on constate que tant que les gens portent l'appareil, si vous voulez, à la cheville, eh bien moins de 5% récidivent. Donc c'est tout à fait efficace. Sauf que quand on leur enlève l'appareil, la moyenne des récidives rejoint la moyenne générale. Donc ça veut dire, et c'est ce point qui est important, ça veut dire que l'appareil tient lieu de conscience morale. C'est une prothèse morale. C'est une prothèse qui prescrit la manière de se comporter. Alors là, on est dans le prototype le plus grossier, si vous voulez. Mais ce qui est très important, c'est que cette histoire de machine pour gens qui picolent un peu trop le vendredi ou le samedi soir, parce que c'est quand même ce que dit aussi Boris Johnson. Au Monde, il déclare, on ne vise pas les malades, On ne vise pas les délinquants. On vise tous ceux qui exagèrent un peu trop le vendredi ou le samedi soir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est une fabrique du lien social. C'est la manière dont on socialise. Donc, si vous voulez, vous parliez tout à l'heure du cher ministre français de l'Éducation nationale. Mais enfin, on voit bien l'hypocrisie, par exemple. Il donne la possibilité de confisquer les portables. Il ne donne pas les moyens. C'est quand même un tout petit peu hypocrite. Mais qui plus est, en même temps qu'il va proscrire les machines, il nomme à la tête du Conseil scientifique de l'éducation nationale un homme des machines, Stanislas Dehaene, professeur au Collège de France de psychologie expérimentale et cognitive, qui ne rêve que d'une chose, c'est de mettre les élèves sous IRM pour voir comment fonctionne leur cerveau et pour essayer de déterminer quels sont les modules neuronaux qui peuvent permettre un meilleur apprentissage dans le calcul ou la lecture fondée comme des espèces de modules considérant l'élève, si vous voulez, comme une machine à épeler, comme une machine à calculer.
Oui, c'est des écoles chinoises où on filme les élèves en temps réel et puis on mesure leurs émotions. Et puis s'il y en a un qui est malheureux, on va signaler au prof, il va recevoir une alerte, oui, lui disant attention, alors, il faut s'occuper de lui.
Alors là, on entre en plein dans les romans de Philip K. Dick, c'est Minority Report, si vous vous souvenez. Hein. On peut prédire les intentions de quelqu'un de commettre un acte et l'empêcher. Mais ça veut dire qu'on se substitue à sa conscience. Vous vous rendez compte que là, ça veut dire qu'on enterre définitivement, pour l'instant, quand je dis définitivement, c'est à notre époque, mais on enterre le discours de liberté, d'émancipation des philosophes des Lumières. Hein, Kant, 1784, qu'est-ce que les Lumières ? Sors de l'état de minorité dans lequel tu te complais toi-même, ne te fie qu'à ta raison critique et à ta loi morale, sois autonome. Donc c'est ça la liberté. Et ça implique un impératif moral aussi. Fais ce que tu dois, bien sûr. Hein. Donc du coup, c'est plus la peine. Plus la peine d'avoir... Alors, c'est quand même...
Il y a deux théories qui s'affrontent, hein, justement, je crois, dans ce livre dont on parlait tout à l'heure, sur la culture du narcissisme, où il dit il y avait deux visions du monde. Il y a la vision orwellienne, 1984, où on est surveillé, où le moindre de nos faits et gestes est encadré. Et il y a à l'inverse la vision Huxley, dans Le meilleur des mondes, où en fait c'est tellement compliqué qu'on s'en fout, quoi. Puis on prend une pilule pour plus réfléchir.
Oui, mais on est dans les deux cas, si vous voulez, dans quelque chose qui rend l'humain superflu. On tombe dans une forme de totalitarisme. Alors, on a connu les totalitarismes nazis, fascistes et staliniens, politiques, des partis totalitaires au XXe. On va aujourd'hui vers une espèce de technofascisme. Mais c'est pas la technique qui est fasciste. C'est pas la technique. C'est que nous avons, alors on pourra peut-être en reparler aussi, mais si vous voulez, nous avons laissé à la technique, comme nous avons laissé au marché, le soin de raisonner à notre place. C'est-à-dire, nous sommes dans ce que j'appelle une rationalité pratico-formelle. Alors, c'est un peu compliqué, mais qui s'explique très facilement. La rationalité pratique, avec Max Weber, c'est quoi ? C'est la rationalité de l'homme d'affaires qui calcule ses investissements, ses coûts et ses profits. Bon, donc c'est la pensée se réduit à un calcul assurantiel. Bon, et la rationalité formelle, c'est quoi ? C'est la pensée du droit. Et il faut que ça soit conforme et que ça obéisse effectivement aux normes, aux lois, aux prescriptions. Donc c'est ça le problème. C'est que quand, si vous voulez, on prend l'exemple de ces citoyens qui ont un peu trop picolé un vendredi ou un samedi soir. Mais vous savez, en psychiatrie, aujourd'hui, ce qui est en train de se produire, c'est qu'il n'y aura plus de psychologue, il n'y aura plus de psychiatre, il y aura des logiciels qui établiront des échelles actuarielles, c'est déjà le cas, hein, qui permettront, à partir d'un certain nombre d'indices et d'indicateurs, des réponses à des items très simples. Est-ce que vous êtes marié ou célibataire ? À partir de quel moment vous avez fait l'école buissonnière, depuis quand vous utilisez des toxiques, est-ce que vous avez agressé des personnes vulnérables, enfin, on établit comme ça un profil, de la même manière que quand vous allez chez votre assureur, bah, vous avez un dossier actuariel, c'est-à-dire qu'il établit, en fonction des indicateurs que votre passé, votre présent lui donne, votre état de santé physique, votre âge, etc., la probabilité du risque qu'il prend en vous assurant. Mais vous vous rendez compte, donc aujourd'hui, on ne va pas dire que tel patient est dangereux, que tel délinquant est dangereux. On va dire, en quelque sorte, on va établir la probabilité de voir réapparaître des comportements indésirables, et en fonction de ces probabilités, on va ou pas, par exemple, vous libérer, ou on va ou pas vous orienter vers tel ou tel.
Mais ça, du coup, c'est très pratique, parce que c'est la machine qui prend la décision et qui, du coup, en est responsable.
Oui, enfin, sauf que, avant la machine...
Elle a été programmée par quelqu'un, voilà, bien sûr.
Elle a été programmée.
Il va y avoir quelque chose d'intéressant qui va se passer dans le monde de la finance, parce qu'il y a ces robots advisors qui sont, en fait, les algorithmes qui gèrent les fortunes. Et quand les marchés vont tomber, ça arrive forcément, ça sera intéressant de voir, parce que là, est-ce qu'on va pouvoir dire, oui, mais c'est la faute de la machine, de pointer le doigt vers elle, alors qu'on l'a vendue comme un plus. Moi, j'aimerais changer un peu de sujet, parce qu'il y a quelque chose qui me fascine beaucoup, c'est justement on reste sur le lien entre l'homme et la technologie. Alors j'ai l'impression que si on s'arrête sur les technologies digitales, hein, parce que c'est un mot valise, la roue est une technologie qui est avec nous depuis très longtemps, mais ces technologies digitales, d'abord j'ai l'impression qu'il y a eu cette phase où c'est l'humain qui a dû s'adapter à la technologie, donc c'est-à-dire c'était dans les années 50, un ordinateur c'était très compliqué, c'était un monde d'initié. Ensuite, à peu près à partir de ces premiers écrans qu'on pouvait toucher, on a vraiment l'impression que c'est la technologie qui a fait un pas vers l'humain, c'est elle qui a voulu rentrer dans notre quotidien, devenir simple, etc. Aujourd'hui, il y a cette espèce d'ironie, on arrive à ce moment de saturation, et quelque part, j'ai l'impression que, par exemple, l'automatisation, ce que vous avez dit tout à l'heure, on va reprendre l'exemple du radiologue, est en train de nous pousser vers notre humanité, c'est-à-dire que le médecin va voir dans les tâches qu'il fait, les tâches de diagnostic qui vont être prises par la machine et les tâches d'accompagnement social, de compréhension holistique du patient, voilà, dans son ensemble, sa situation, etc. Et que finalement, dans une sorte d'ironie, après nous avoir déshumanisé, la technologie est en train de nous réhumaniser. Puisqu'aujourd'hui, quand vous parlez à des gens qui vous expliquent l'intelligence artificielle, etc., ils vous disent, il y a quand même des choses que les machines ne prendront pas. La créativité, l'empathie, le leadership, ou je sais pas. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec ce diagnostic? Parce que moi, ce que je vois aussi dans tous les jours, là, il y a eu, pour la première fois, les statistiques françaises, il y a eu une déconsommation, hein, et je vois un retour, les gens veulent manger le steak qui vient de la ferme d'à côté, ils en ont marre que dans leur bouffe, il y ait des colorants, des trucs pour les gens qui ont les moyens. On a l'impression qu'il y a une espèce de tellement de saturation qu'on revient au vrai, on revient au traditionnel, on revient au concret.
En somme, vous nous proposez du numérique bio.
Alors c'est ça, exactement. Bon. Exactement. Enfin, je ne propose pas, mais j'anticipe, je vois arriver ça, exactement, du numérique bio. Et ce qu'on voit, il y a le Fairphone, par exemple, qui est un projet d'un téléphone qu'on arrête de renouveler tous les ans, etc. Vous avez aujourd'hui la blockchain qui nous promet de faire des plateformes sans donner 30% à une grande société qui ne paye pas ses impôts, etc. Voilà, donc on en arrive là.
Alors, j'ai essayé tout à l'heure de vous amener vers le 19e, mais vous n'avez pas voulu me suivre. Mais à la fin du 19e siècle, c'est très intéressant, parce qu'on voit bien dans les années 1890, les différentes expositions universelles à Paris.
La belle époque.
On voit bien comment c'est l'idée... Eiffel, pour aller vite, la tour Eiffel, c'est l'idée, si vous voulez, que la conjonction de la science, de l'industrie et des techniques... Voilà, vont finalement sauver l'humanité et qu'on entre dans la modernité épanouie, la modernité heureuse, comme il y a un gothique...
L'universalisme à l'époque, hein, voilà. C'est pas la globalisation, c'est l'universalisme.
Ouais. Et comme il y a un gothique flamboyant, il y aura une modernité flamboyante. Sauf que 10 ans après, vous avez les arts nouveaux.
Sauf que... Et 15 ans après, la Première Guerre mondiale.
Oui, ça, on y vient. Alors effectivement, donc ça veut dire qu'à un moment donné... Si vous voulez, je crois qu'il y a une dialectique. Moi, je suis très nietzschéen, comme vous l'avez peut-être deviné. Et donc, je pense qu'il y a une dialectique avec Apollon et Dionysos. Et donc, forcément, il y a une dialectique entre, pourrait-on dire, les formes et le chaos. Et que quand on se fige un peu trop dans les formes, ce que proposent effectivement les utilisations de la technique, eh ben, vous avez le chaos qui revient, qui déforme, si j'ose dire, ces images figées du monde que nous proposent les techniques. Je fais vite et je fais simple. Bon. Donc ça veut dire, si vous voulez, que ce dont vous me parlez, mais alors le point où je serai en désaccord avec vous, si je peux me permettre, c'est pas la technique, parce que là vous faites de l'anthropomorphisme. La technique entre en nous, la technique... Non, c'est pas la technique, c'est nous. C'est nous qui, à un moment donné, considérons que, bah regardez, les patrons de Google, Amazon et compagnie, ils en viennent à interdire à leurs enfants l'usage des smartphones ou l'usage de l'iPhone, etc., ou l'utilisation des écrans.
Mais est-ce que c'est encore un choix aujourd'hui d'avoir un téléphone portable ? Par exemple, si vous n'avez pas de téléphone portable, vous êtes exclu socialement. Ensuite, vous arrivez dans un emploi, on va vous coller un email, un laptop et un téléphone.
Non, mais regardez, moi j'ai un téléphone portable, j'ai un iPad, j'ai un ordinateur, c'est pas le problème, hein, je suis pas technophobe, hein. C'est pas ça. J'essaie de restituer à l'humain sa responsabilité et de refuser d'inculper la technique dans le procès que nous pouvons faire de notre manière de vivre. Tout à l'heure, j'ai parlé de post-démocratie. Bon, encore une fois, j'ai parlé de la démocratie est-elle soluble dans le numérique. On voit bien comment, de toute façon, les hommes politiques ne servent pas à grand-chose. À l'heure actuelle, les marchés faisant un peu la loi, il y a une gestion algorithmique des populations qui est tout à fait possible. Regardez, vous parliez de la Chine. La Chine, on établit un score du comportement social. Donc, avec tous les capteurs qui nous entourent, on peut déterminer, si vous voulez, votre manière de vous comporter, votre manière de vivre, et vous donner, si j'ose dire, une note de comportement social honorable ou pas honorable, etc. Et en fonction de quoi, vous avez accès à un certain nombre d'études supérieures ou de soins et autres. Donc, on voit tout à fait le spectre, à mon avis, diabolique, horrible, d'une gestion numérique des populations, ramenant la société humaine au mode d'emploi des sociétés animales. Parce que les sociétés animales, elles sont parfaitement, justement, organisées sur le mode d'une pure et simple interaction des signaux. Quand on parle de langage animal, on pense à ça. On oublie simplement que les signaux dans le monde animal ne sont pas équivoques. Donc ils n'ont pas la dimension poétique, la dimension spécifiquement anthropologique que nous pouvons avoir grâce, justement, j'y reviens, à d'autres manières de donner le monde que par le numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une religion du numérique, comme on est dans une religion du marché, qui est un peu intégriste. Et qu'il faudrait peut-être, justement, considérer qu'on a aussi besoin de rêver, on a aussi besoin de poésie, on a aussi besoin d'amour. Pas simplement de sites de rencontres. Vous savez, je vous en ai parlé au téléphone, il y a un livre extraordinaire de Giulio Manghini qui s'appelle Fake, Faux, justement, où on voit ce type vivre des tas d'expériences sexuelles débridées, ensuite par avatar démultipliés, jusqu'à les halluciner d'ailleurs, bon bref, et se perdre complètement lui-même. Il dit d'ailleurs que en se réabonnant à ces sites de rencontres, il signe un contrat avec sa propre absence. Je trouve que c'est très juste, très vrai, très fort. Ça dit mieux que je ne saurais le dire, ce qu'il en est d'une désubjectivation aujourd'hui.
Ce que vous dites, hein, c'est qu'on revient quelque part au règne animal presque, c'est où l'animal en fait partie d'une espèce, et on n'est plus en tant qu'individu, et c'est vers ça que nous pousse la technique d'une certaine façon.
Absolument. Non, c'est pas la technique. La technique, elle y est pour rien. C'est nous qui, dans une certaine manière, utilisons la technique par une paresse morale, par une lâcheté politique et par une absence de courage psychologique. Voilà, j'ai lâché.
On n'est pas d'accord là-dessus, mais je comprends le raisonnement. Non, mais exactement, c'est pas grave. Moi, je pense quand même qu'il y a. J'ai dit pendant longtemps que je trouvais la technologie neutre. Et moi, par exemple, un truc que je voulais dire tout à l'heure quand je vous écoutais, c'est que pour moi, Internet, qui a été fait par les Américains, porte en lui le système de valeurs américain. Et donc aujourd'hui, on se trouve. Alors, par exemple, le fait au départ qu'on pouvait pas freedom of speech, hein, c'était très difficile pendant des années pour des gouvernements comme le gouvernement français, où on n'a pas le droit de tenir des propos racistes, des propos nazis, etc. Eh ben, Internet, on pouvait pas le faire parce que c'est une technologie qui avait été inventée sous la logique du free speech. Donc, pour ça que j'ai quand même mis de l'eau dans mon vin par rapport à ce côté, la technologie est neutre avec le temps, en me disant non, quand même, aujourd'hui, c'est vrai que je vois que, par exemple, mon téléphone porte tout un tas de raisonnements culturels, politiques, économiques et sociaux qui ont été packagés dans les algorithmes qui dirigent. Voilà. Par exemple, dans WhatsApp, je ne peux plus enlever les reçus de lecture sans les perdre moi-même. Bah ça, c'est un mec dans la Silicon Valley qui a fait ce choix-là pour moi, et puis ça m'impacte. Donc c'est pour ça que je continuerai à mélanger un peu tout, mais je suis d'accord, au fond, ça reste à nous, dans une certaine mesure, de contrôler ces outils et de les contrer.
Alors, vous avez bien compris, Laurent, que je me suis fait aussi volontairement l'avocat
bien sûr,
du diable.
Moi aussi.
Vous aussi. Bon. Mais justement, c'est parce que nous sommes humains. Alors que si nous étions programmés par une gestion prévisionnelle de l'impact d'une logique de DIMAT dans notre discours, nous n'aurions pas cette possibilité de jouer avec. Le jeu, c'est quelque chose qui transgresse justement le prédictif. Tout à l'heure, je l'ai dit, mais je reviendrai sur votre question. Si vous voulez, ce qui est terrible avec les histoires d'échelle actuarielle, par exemple en psychiatrie, c'est-à-dire de prédiction de comportement indésirable, ce qui est terrible, si vous voulez, c'est que c'est efficace. Vous avez jamais vu beaucoup d'assureurs faire faillite.
Sur la masse, en tout cas.
Sur efficace. La masse, ouais. Oui. Non, mais on est bien d'accord, sur la masse. Donc, ça, mais de toute façon, les big data, ça va tout à fait avec la rationalité assurantielle. Les assureurs, ils travaillent avec ça. Ils travaillent pas sur l'individu, ils n'ont rien à foutre de l'individu. Vous voyez ? Donc, c'est très important. Mais ce qui est dramatique, c'est qu'on voit bien la facilité, la lâcheté politique et morale qui est de confier à des algorithmes le soin de gouverner les populations et de prescrire le comportement collectif individuel. Sauf que ce qui se perd au passage, c'est quoi ? Ce qui se perd au passage, justement, c'est la politique, c'est la morale, c'est la spécificité anthropologique de l'humain. Puisque ça veut dire que la société entre dans l'avenir en reculant, en regardant la route par le rétroviseur.
Et puis tout ce qui n'est pas mesurable n'existe pas.
Absolument, non, mais ça c'est encore un autre problème. Mais déjà, ça veut dire, si vous voulez, que la notion d'indétermination, d'imprévisibilité, qui est quand même consubstantielle...
Oui, puisque la data n'est que sur le présent et le passé. Donc elle, par définition, n'a pas de data sur le futur.
Ça veut dire que vous ne pouvez pas, qu'on considère, avec ces logiciels, que votre futur ne peut pas être autre chose que le reflet de vos comportements passés. Donc un sujet n'est rien d'autre que la somme de ses comportements déjà accomplis. Ça veut dire que, si vous voulez, on le prive de l'indétermination du futur. Alors, bien sûr, on ne prend pas beaucoup de risques. Hein. Quand Guilhem parlait de ce type de gouvernement de l'État comme un commerçant rusé et avisé qui fait de bonnes affaires en fonction de ce qu'il connaît de son capital humain et de la manière dont il peut le placer. Mais ça veut dire que, du coup, vous ne croyez plus aux soins, par exemple, qui est quand même mon boulot. Vous ne croyez plus à l'éducation, ce qui a été mon boulot. Donc ça veut dire, si vous voulez, que quelqu'un est dans une espèce de fatalité biologique et économique. Alors si vous prenez quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est Jaurès, socialiste français, comme vous savez, Jaurès dit, l'humanité, qu'est-ce que c'est ? C'est pas une transcendance. L'humanité, c'est pas un individu. L'humanité, c'est cette part qui est en chacun de nous, qui nous fait refuser la fatalité biologique et économique. Donc en gros, nous perdons notre humanité. Alors, bien sûr, je me suis fait l'avocat du diable. La technique y est bien pour quelque chose. Elle y est pour quelque chose en tant qu'elle nous donne...
Mais avec notre complicité, ça, c'est ce que vous dites, on l'a bien compris.
Elle nous donne les moyens de satisfaire nos besoins dans une lâcheté, j'ai employé ce mot volontairement, morale, politique et subjective. Et c'est ça qui est dramatique. Et vous savez, j'aime beaucoup Solzhenitsyn, qui sort des camps soviétiques où il était interné. Il fait un discours à Harvard en 1978 sur le déclin du courage. Alors, enfin, il faut quand même le faire. Voilà un type qu'on sort des camps soviétiques et qui vient faire une leçon politique en disant quoi ? L'Occident, vous avez perdu le courage parce que vous ne vous fiez qu'au droit. Le droit n'est pas la justice. Le droit est un système de règles formelles, mais qui est trop froid et trop rationnel pour faire société. Vous parliez de société animale tout à l'heure, comme nous avons évoqué. Souvenez-vous d'Aristote. Aristote dit de l'homme que c'est un animal politique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il fait cité, il construit des cités, pas simplement, si vous voulez, parce que ensemble on peut mieux répondre à nos besoins matériels. Il dit, c'est pas seulement ça, pas seulement de manière utilitaire. L'homme est un animal politique, il construit des cités parce qu'il a besoin d'amitié. C'est la philia, l'amitié, qui constitue le ciment de cohésion sociale. C'est très important. Et alors, vous avez toujours, chez un philosophe comme Rousseau, cette phrase extraordinaire, qu'il a plus ou moins d'ailleurs piqué à Thucydide, mais c'est pas grave, où il dit, en gros, ce ne sont pas les murs qui font la cité, ce sont les hommes. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'en gros, ça ne nous empêche pas d'avoir du ciment et des briques pour faire des maisons. Donc, on peut avoir des briques et du ciment numérique. Mais c'est ça peut pas être ce qui pourra enraciner l'humain dans son humanité. Il y a une humanité de l'homme, on va parler comme Hannah Arendt, qui ne se réduit pas, si vous voulez, à l'espèce humaine. Il y a quelque chose d'autre. Il y a du sacré, du transcendantal, il y a du moral, il y a du politique, il y a du psy. C'est ça qui est très
c'est
important.
Ce qu'on voit très concrètement, je me rappelle dans les années 90, il y avait cette espèce de fantasme, il y avait l'avènement de cette solution de vidéo à distance, de chat, puis c'était Skype, etc. Ça se démocratisait. Puis une des conclusions qui était tirée à partir de ça, c'était du coup on ne va plus voyager. Et depuis, il y a eu les compagnies low cost et le transport aérien manque de 650 000 pilotes dans les 10 années qui viennent, ça a explosé, etc. Et donc, finalement, c'est peut-être source d'espoir. Ce que vous dites, c'est qu'on a un ancrage en nous, on a des besoins physiologiques qui ne vont pas évoluer aussi vite que la technique. Peut-être qu'en ce moment, la technique n'est plus... Enfin, la société dans laquelle on vit, je vais mettre la technique de côté, mais la société dans laquelle on vit n'est plus capable de répondre à ces besoins, mais qui reste en nous. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle à distance, plus on a besoin de voyager, plus on a besoin de se voir. Et que peut-être, on est maintenant à un moment charnière où il va y avoir une sorte de réaction. J'en ai parlé un petit peu avant. C'est peut-être moi qui fais du wishful thinking, hein, où j'espère que ça va arriver, mais qu'il va y avoir une réaction, on va se dire, nos besoins physiologiques vont se réveiller, nous dire, mais attention, la vie que vous menez ne répond pas aux besoins qu'il y a dans les gènes, et les gènes n'évoluent pas aussi vite que les logiciels, quoi. Les logiciels, on peut les mettre à jour 4 fois par jour. L'ADN, c'est, je sais plus, 0,1%, c'est 2000 ans pour le faire évoluer. Je cherche une source d'espoir un peu Roland Gori pour terminer conversation. mais où est-ce qu'on va? Est-ce qu'il va y avoir une réaction?
Je vais à
j'ai
la
pas
fois...
l'impression de voir les gens très heureux autour de moi, quoi. C'est peut-être pas que je veux en venir,
mais c'est peut-être parce qu'ils ne sont
tout
pas
à l'heure,
heureux.
Je suis venu vous chercher à l'hôtel, il y avait trois, quatre personnes qui étaient ensemble, mais en fait chacune sur leur smartphone, quoi.
Si vous voulez, c'est peut-être parce que les gens ne sont pas heureux. C'est peut-être parce qu'ils sont malheureux, c'est peut-être parce qu'ils sont dans une déliaison sociale, dans le désert, pour parler comme Hannah Arendt, dans la désertification de l'espace public et social, qu'ils se réfugient sur leur écran. Vous savez, moi je suis...
Mais ça va beaucoup plus loin que la technique, c'est sûr.
Ça va beaucoup plus loin.
Un truc qui m'a toujours frappé, vous avez écrit sur le terrorisme, à chaque fois qu'on va voir les parents d'un terroriste, les parents disent « Ah mais j'avais aucune idée ». Mais donc vous passiez pas de temps avec vos enfants, c'est étonnant. Donc ça va beaucoup plus loin que la technologie.
Vous savez, c'est très difficile, on le voit même, je veux dire, dans nos familles, c'est très difficile d'admettre que lors d'un dîner familial, on puisse laisser... Et les iPhones dans la pièce à côté. Moi-même, je le fais pas toujours. Hein. Et donc, du coup, on est sans cesse exposé à la vigilance du numérique. Et donc, aliéné. Donc, bien sûr, Laurent, vous avez raison, bien sûr que la technique peut être source d'une aliénation sociale et subjective considérable. Mais c'est peut-être parce que nous sommes dans une manière de vivre qui est déjà ouverte à privilégier la solution technique, faute d'avoir su trouver d'autres solutions politiques, poétiques. Pour moi, vous voyez, c'est du côté, si on doit terminer sur une note d'espoir, c'est du côté de Malraux que je la verrai. Dans un interview à l'Express en 1955, il dit en gros que dans la modernité, je cite de mémoire, j'ai pas la citation là sous les yeux, mais dans la modernité, c'est pas en gros... Le problème, c'est pas la faute des machines. Ce qui est terrible, c'est que nous avons perdu une idée de l'homme, une idée de l'humanité. Et il dit, à ce moment-là, le XXe siècle sera religieux ou pas. Alors, il n'a pas dit ça. Il dit, en gros, que...
Le XXIe, d'ailleurs.
Le XXIe, oui.
Il prévoit, on ressort beaucoup cette citation.
Mais sauf que c'est pas vrai. Non, en tout cas, il a dénié avoir dit ses propos. Il a dit, en gros, qu'il nous faudra... réenchanter le monde. Il nous faudra réintroduire les dieux. C'est-à-dire une part du rêve. Et le problème, il est là. Et vous savez, le vieux Winnicottien que je suis, Winnicott est un pédiatre psychanalyste, comme vous savez, qui a écrit des choses absolument extraordinaires.
J'aimerais le savoir, mais je ne le connaissais pas, je l'admets.
Ah oui, ah, c'est un psychanalyste formidable, et qui parle de la localisation de l'expérience culturelle comme étant justement un moment de pacification entre les exigences de devoir reconnaître la réalité et s'y adapter, et puis le besoin en même temps de rêver et d'halluciner. Vous avez la culture. La culture, à un moment donné, c'est un endroit où on ne décide pas pour savoir si c'est réel ou si c'est fantasmatique. C'est un endroit où on peut jouer. On peut jouer donc aussi bien avec les objets du monde extérieur qu'avec les objets du monde intérieur. Et il y a un article de lui de 1936, donc vous voyez, qui rentre sur la défense maniaque. Qu'est-ce que c'est la défense maniaque ? C'est la stratégie de l'individu pour oublier qu'il a une réalité intérieure. Pour oublier, si vous voulez, ses rêves. Et donc il se met sans arrêt à la fenêtre pour ne pas regarder ce qui se passe dans son appartement. Vous avez bien compris que c'est une métaphore. Donc le danger, il est là. Alors effectivement, il dit à Londres, par exemple, c'est une ville qui est bruyante, éveillée en permanence. Donc c'est un lieu où il est beaucoup plus difficile de se constituer ce sol psychique d'où émergent nos pensées, d'où émergent nos désirs. Donc la défense maniaque, c'est ça. C'est-à-dire c'est la défense contre le risque que fait courir, bien sûr, la confrontation avec... Voilà.
C'est la stratégie d'ailleurs qui permet à Donald Trump d'exister. Un jour on m'avait dit que Donald Trump est une attaque DDoS, c'est un terme informatique, c'est ces attaques où on envoie des millions de requêtes à un serveur et du coup il peut plus. Donald Trump est une attaque DDoS sur les médias qui n'ont même plus le temps de couvrir et d'analyser ce qui vient de se passer, qu'il y a la chose suivante.
Alors là, on est en plein dedans, vous avez raison. Vous voyez bien que là, on touche au problème politique, on touche, si vous voulez, à l'éthique, vous parlez de l'éthique. Hein. Vous savez que Foucault parle du sujet éthique comme étant le rapport qu'on entretient avec soi-même, avec l'autre ou avec le monde. Ben là, on est en plein dedans. Alors, effectivement, si vous voulez, dans une logique d'audimat, ce qui compte, c'est pas la valeur de ce qu'on produit. Ce qui compte, c'est l'impact que l'on peut avoir. Et donc, si vous voulez, c'est gagner du temps et avoir le maximum d'impact. Donc, du coup, vous savez, dans La Chute de Camus, il y a une très belle phrase où Camus nous fait dire à un de ses personnages, le juge Clemence, il lui fait dire « Nous avons remplacé le dialogue par le communiqué ». Bah, ça, c'était Camus 1950. Maintenant, nous avons remplacé le dialogue et le communiqué par le tweet. Alors, effectivement, Trump, c'est parfait. Comme de toute façon, c'est une pure façade. On se demande s'il a la moindre épaisseur psychologique, la moindre épaisseur politique.
Ce qui est bien, c'est que ça va être dur d'aller plus loin quand même que le tweet. Ça va être dur d'inventer un format encore plus court, encore plus vide que celui-là. Donc il y a peut-être un peu d'espoir de ce côté-là. Mais c'est quand je vous écoutais, je me disais aussi, c'est vrai qu'il y a finalement ce combat. Les machines sont binaires. Pour les machines, c'est 0 et 1. Et en fait, l'homme n'est pas du tout binaire. C'est beaucoup plus que blanc et noir, que 0 et 1. Et c'est pour ça qu'on est peut-être fait pour coexister, mais pas forcément pour se cannibaliser l'un l'autre. Et puis peut-être pour essayer de résumer tout ce qu'on vient de dire, finalement la technique, si elle n'est pas neutre, elle est en tout cas capable du meilleur et du pire, et en ça finalement elle ressemble beaucoup à l'humain.
Oui, vous continuez à parler de la technique comme si c'était d'une femme ou d'un homme.
C'est un personnage, c'est quand même quelque chose qui fait partie
vous.
De notre vie. Oui, pour moi,
vous.
C'est vrai.
Voilà, pour vous. Mais je crois que vous avez dit l'essentiel sur le côté binaire. C'est-à-dire, effectivement, notre langage humain n'est pas binaire. Je veux dire, si vous voulez, le langage animal pour déterminer une menace ou une source de nourriture est forcément établi par des signaux qui sont binaires. Ou en tout cas qui se rapprochent, je dirais, de la binarité. Bon, c'est pas du tout le cas du langage humain. Et c'est ça qui est formidable, c'est qu'il est plein d'équivoques, c'est qu'il a, il y a plusieurs significations possibles, il y a plusieurs auditions possibles, il y a plusieurs partitions possibles, et ça c'est formidable. Et effectivement, le danger, c'est un monde où on réduirait l'équivocité que permet le langage humain, et qui est source de poésie, qui est source de rêve, qui est source de relations d'amour, à un langage simplement binaire. Il y a un danger, mais on n'est pas obligé de n'avoir que ce canal de communication.
Non, mais c'est vrai, puis ça me rappelle cette phrase de Alan Kay, la meilleure façon de prédire le futur, c'est de l'inventer. C'est aussi à nous d'inventer ce futur.
Tout à fait.
Je vous remercie beaucoup, Roland Gory.
Merci, Laurent.
Maintenant, on va éteindre les micros, puis vous allez me faire une psychanalyse sur ma relation à la technique et pourquoi j'imagine que c'est une sorte de personnage.
Une femme, non?
Je sais pas. En tout cas, c'est vrai que c'est une force qui existe dans ma vie. Il va falloir qu'on en parle. Et cette fois, vous faites tourner le compteur que je vous paye à la fin pour la séance de psychanalyse. Merci, Roland.
Merci, Laurent.
Merci d'avoir écouté Be My Guest. Je vous retrouve dans 2 semaines. On va cette fois-ci complètement changer de sujet et aller parler d'horlogerie avec Marie-Emmanuelle Chassot, directrice de Baume.
C'était Be My Guest, présenté par Laurent Haug, en partenariat avec 200 Idées et Créa, école membre de InSecU.